Bienvenidos a este informativo de Radio
France. Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplin.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde ce soir avec pour la rédaction en anglais Sarah Elsass.
Good evening.
Pour la manière, pour une polémique sur l'attribution d'un diplôme honoraire à la première dame du Zimbabwe par l'université de Harvard. Tiens, une femme de la rédaction vietnamienne. À propos des tensions entre le Vietnam et la Chine en mer de Chine méridionale, justement. Et puis Miguel Martins de la rédaction lusophone.
Bonne nuit.
Pour les 2 ans de la présidence de João Lourenço en Angola. Alors bonsoir à vous tous. Avant cela, intéressons-nous à la mort de Jacques Chirac. Sur RFI, nous en avons déjà beaucoup parlé de son action. Ce soir, dans Accent du Monde, le regard des rédactions donc en langues étrangères sur son action à l'international, car il a parcouru le monde, comme quand il avait piqué cette colère contre les services de sécurité israéliens alors qu'il était à Jérusalem.
Il y a encore comme problème. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. And let them do.
Voilà, Jacques Chirac, qui ne parle pas aussi bien anglais que vous, Sarah Elsass, le président a entretenu...
Pas mal quand même.
Oui, en tout cas, il s'est fait comprendre.
C'est sûr.
C'est l'essentiel. Le président français a entretenu des relations spéciales avec les États-Unis, notamment avec le refus de la France de participer à l'invasion de l'Irak. C'était en 2003.
C'est ça, et ça a suscité beaucoup de colère des Américains à l'époque, colère politique, mais aussi des personnes, des Américains. C'était à l'époque où le congrès, la cantine du congrès américain a renommé les frites. Normalement, on appelle ça des French fries, les frites françaises. Ben, ils ont renommé ça des Freedom Fries, les frites de la liberté, pour éviter de dire le mot en français. C'est un peu rigolo, mais ça a vraiment eu un impact sur les relations franco-américaines et se sont vraiment détériorées suite à ça. Mais... même si Chirac lui-même, personnellement, il aimait beaucoup les États-Unis. Il a voyagé dans sa jeunesse, dans les années 50, où il a fait des petits boulots ici et là. Et c'était en fait le premier chef d'État qui est allé aux États-Unis juste après les attaques du 11 septembre 2001.
Alors, il n'y a pas eu de soldats français en Irak, mais Jacques Chirac a envoyé des troupes françaises, donc, pour soutenir l'opération militaire américaine en Afghanistan.
Hein. Oui, c'est ça, après le 11 septembre. Mais c'est l'Irak qui a vraiment bloqué. Donc, pour lui, il a dit que les États-Unis n'ont pas du tout prouvé que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Bon, et il s'inquiétait justement que cette guerre allait empirer les sentiments anti-occidentaux au Moyen-Orient et que ça déclenchera une vague de terrorisme. Bon, on peut voir un petit peu comment l'histoire s'est déroulée. Peut-être il a un peu bien vu. Donc, au niveau des éloges qui ont été faits suite à son décès, le président actuel américain Donald Trump n'a rien dit vraiment sur le président.
C'était ça qui sait, hein.
Bah, je ne sais pas. C'est possible, je ne sais pas. Il y a Bill et Hillary Clinton, donc l'ancien président et l'ancienne secrétaire d'État. Eux, ils ont reconnu Chirac comme un homme d'État audacieux et talentueux.
Alors ça, c'est pour les États-Unis. Côté Royaume-Uni, comment est-ce que Chirac était vu, perçu?
Alors Tony Blair, bien sûr, avec lui, il a vraiment payé le prix de rejoindre les États-Unis en Irak, justement. Et je pense qu'il a pas du tout apprécié Chirac suite à ça. Mais bon, il a quand même reconnu Chirac suite à sa mort. Lui, il a dit c'était une figure imposante dans la politique française et européenne. Bon, pas très élégant nécessairement, mais une reconnaissance quand même. C'était intéressant de regarder un peu les journaux britanniques de comment ils ont un peu parler de Chirac, assez standard de parler un peu de son histoire en France, mais il y en avait notamment le Sun, bon, quand même un journal un peu à sensation, mais leur titre, ancien président français déshonoré, condamné pour corruption et mort.
Plus globalement, les relations entre le président français Jacques Chirac et le Royaume-Uni, elles n'ont pas toujours été bonnes.
Pas toujours, mais bon, c'était peut-être une tension, peut-être historique ou un peu stéréotypée entre la France et le Royaume-Uni. Mais bon, Chirac, il y a une citation assez connue sur la nourriture anglaise, par exemple. Lui, il a dit, on ne peut pas faire confiance à des gens qui ont une cuisine aussi mauvaise.
C'est pas faux.
Je vais pas de commentaire là. Il n'a jamais contredit cette citation, même si ça n'était pas fait officiellement. Il y a aussi une phrase qu'il a dit lorsqu'un micro aurait dû être éteint. Ça, c'est au sujet de Margaret Thatcher, qui était la première ministre à l'époque, qui avait demandé plus d'aide à l'Europe. Chirac avait dit à Mitterrand, donc Chirac en premier ministre,
allez,
à son président, il a dit, qu'est-ce qu'elle me veut de plus, cette ménagère, c'est mes couilles sur un plateau. Bon, quelque chose qui dit peut-être plus sur l'attitude du Chirac envers la dame qu'envers le pays, mais bon, Chirac s'est finalement excusé.
Voilà donc pour les relations de la France sous Jacques Chirac avec les pays anglo-saxons. Venons-en à l'Afrique, c'est un continent où Jacques Chirac avait ses habitudes auprès de nombreux chefs d'État, lui qui a visité environ 40 pays. Chirac qui a été à l'origine du musée du Quai Branly, musée des arts premiers avec une forte présence africaine. Alors à la rédaction en portugais de RFI, vous avez pu, Miguel Martin, se joindre des décideurs du continent qui l'ont côtoyé.
En effet, Philippe, c'est le cas de Pedro Pires, ex-président du Cap-Vert, qu'il a rencontré au gré de plusieurs sommets notamment. Je vous propose que nous l'écoutions.
O presidente Jacques Chirac deixou uma imagem de grande estadista que trabalhava pelo...
Alors, que vous a dit l'ancien chef du Cap-Vert, chef d'État?
Pedro Pires nous disait que Chirac avait été un grand homme d'État, qui à ses yeux se serait illustré à travers le renforcement du rôle de la France. Il aurait eu une proximité très forte avec nombre de chefs d'État du continent, l'Afrique, où les gens le percevaient comme étant un partenaire crédible, même si là aussi, c'est sa position d'opposition à l'intervention militaire en Irak, Sarah nous en parlait, qui a marqué les esprits, nous disait Pedro Pires, d'autant plus qu'il avait raison. Alors, en termes des relations internationales, l'ancien président capverdien prétend que Chirac avait le souci donc d'un monde plus équilibré et plus juste.
Alors, Jacques Chirac a visité de nombreux pays francophones, pas seulement le Mozambique, l'Angola également, deux grands pays lusophones. Comment en Angola, par exemple, Jacques Chirac était-il perçu, est-il perçu actuellement?
C'est la question que nous avions posée à l'universitaire Mario Pinto d'Andrade, on l'écoute. Il reconnaît que Chirac s'était entouré de chefs d'État africains que l'on pourrait qualifier comme étant autoritaires, l'amitié se confondant souvent avec l'influence que l'on cherchait à imposer, nous explique-t-il en cette période fin du siècle dernier, début du 21e. Le fait d'avoir tissé des liens profonds avec certains chefs d'État, notamment francophones, de la part de Chirac, allait de pair, c'est sûr, avec sa détermination à accroître l'influence de Paris sur le continent.
Concernant le Vietnam, Tse Hung Pham, Jacques Chirac avait des liens particuliers avec le Vietnam.
Oui, je pourrais dire que Chirac était le président français qui connaît mieux l'Asie et le Vietnam en particulier. Il a visité le Vietnam deux fois en tant que chef d'État en 1997 à l'occasion du sommet de la francophonie et en 2004 à l'occasion du sommet Asie-Europe. Donc la visite de 1997 avait pour but de développer le dialogue repris en 93 avec la visite de François Mitterrand. Il a donné également une impulsion à la francophonie et a beaucoup aidé le Vietnam à organiser ce sommet. Parce que pour Hanoï, c'est une occasion de s'intéresser davantage à la communauté internationale après des années d'isolement.
Et vous le disiez en 2004, retour au Vietnam, Jacques Chirac a encouragé le régime de Hanoï à s'ouvrir davantage économiquement et politiquement.
Oui, parce que à cette époque-là, les dirigeants de Hanoï étaient divisés sur la poursuite des réformes. Donc, c'est l'occasion pour Jacques Chirac de donner une impulsion à ces réformes et puis faire entrer davantage les investissements français dans ce pays. Il a aussi un lien familial avec le Vietnam parce qu'il a lui-même accueilli une mopipo vietnamienne, Madame Nguyen Dao Tra Sen, en 1979, quand il voyait cette jeune femme à l'aéroport de Charles de Gaulle.
Et puis, il a fait beaucoup de voyages au Japon également, hein, Jacques Chirac.
Oui, parce que il est non seulement connu pour son amour des sumo, mais il est enfin admirateur des arts asiatiques.
Et il aimait discuter avec des passionnés de l'Asie. Hein. Il voilà, rendait d'ailleurs visite à des galeries parisiennes spécialisées dans l'art japonais.
Voilà, surtout que pendant la visite au Vietnam en 2004, il a consacré beaucoup de temps pour faire le tour des chantiers, des fouilles de l'ancienne cité impériale en plein cœur de Hanoï, la capitale du Vietnam. Donc le professeur Lung Tung était interprète à cette occasion-là. Il se souvient de ce qu'il a dit Jacques Chirac quand il inaugurait le musée d'ethnographie de Hanoï.
On écoute.
Trong cái lời phát biểu của mình thì ông có nói về nhiều thứ.
Quel est le souvenir qu'il garde?
Il a beaucoup insisté sur l'importance de la culture pour un pays comme le Vietnam, un pays qui a 54 ethnies, dont il a salué le rôle précieux de ce musée qui reflète cette richesse culturelle du Vietnam.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur la disparition de Jacques Chirac. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
This is Radio France International.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
C'était il y a 2 ans, une nouvelle page s'ouvrait en Angola avec le début de la présidence de João Lourenço. 2 ans après qu'il a remplacé Dos Santos, des critiques se font entendre. Alors avec Miguel Martins de la rédaction du Zophone, concernant notamment la lutte contre le chômage chez les jeunes, c'est là une des principales critiques qui lui est faite.
C'est tout à fait juste, Philippe, ou encore sur l'impunité dans des cas de corruption, même si nombre de personnes de l'ancien régime notamment ont été traduites en justice. Rafael Marquez, journaliste d'investigation, prétend lui que son équipe économique serait incompétente. Il reconnaît certaines avancées dans le domaine de la liberté d'expression, on l'écoute.
Angola sempre foi uma sociedade que viveu sob o manto do medo e da repressão. E com João
Quel est son commentaire?
Il nous dit que l'Angola a toujours vécu dans la peur et la répression. Avec João Lourenço, les gens ont perdu la peur. Nous en avons fini également, dit-il, avec l'impunité, puisque certains dirigeants sont sur le point d'être jugés. Même si, d'après lui, les taux de corruption au sein du gouvernement sont toujours élevés et que Lourenço ne semble pas avoir de levier clair lui permettant de maîtriser la situation.
Autre chose, il y a la situation économique du pays qui n'est pas folichonne, elle se dégrade.
Voilà, Philippe, c'est ce qui pointe Rafael Marquez, on l'écoute à nouveau.
Du point de vue négatif, nous avons la situation économique dégradée cada vez plus.
Ce journaliste d'investigation angolais nous disait reconnaître qu'en l'espace de 2 ans, le président ne peut pas tout changer, surtout après plus de 40 ans de ce qu'il appelle des pillages. L'important, ce serait qu'il se fasse entourer d'une équipe économique performante, lui permettant de faire face à la situation. Or, selon lui, c'est là où le compte n'y est pas.
Alors ça, ce sont les attaques, les critiques. Que dit le chef de l'État angolais pour sa défense ?
João Lourenço participait cette semaine à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Il prétend que tout ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique. On l'écoute.
C'est normal qu'il y ait ces réclamations parce que nem tudo está feito. O que não se fez em 44 anos, ninguém pode esperar que se faça em 2 ans.
Que dit le chef de l'État angolais?
João Lourenço prétend que c'est normal qu'il y ait des doléances parce que tout n'a pas été fait. Il dit toutefois qu'il serait naïf de croire que l'on pourrait faire en 2 ans tout ce qui n'a pas été fait en 44 ans. Il met en exergue sa lutte contre la corruption et l'impunité qui serait nouveau, d'après lui. Il affirme s'attendre à une baisse du taux de chômage pour les 3 années à venir, et ce grâce à une intervention accrue du secteur privé dans l'économie. Et ce, aux dépens du secteur public qui se désengage considérablement dans bien des secteurs de l'économie de cet État, connu surtout pour son pétrole et ses diamants.
Miguel Martins de la rédaction Lusophone de RFI. Le Vietnam et la Chine se disputent depuis des années maintenant, hein, la souveraineté en mer de Chine méridionale. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler ici même dans Accent du Monde. Mais ces dernières semaines, la tension est montée d'un cran. Tseung Pham, expliquez-nous d'abord ce qui se passe actuellement.
Donc début juillet, un bateau de recherche chinois accompagné de beaucoup de navires de garde-côtes chinois a pénétré dans la zone économique exclusive et le plateau continental du Vietnam. Pas loin du secteur où la société pétrolière nationale du Vietnam coopère avec une société russe dans un projet d'exploration pétrolière. Donc Hanoï considère que ces activités violent les droits souverains du Vietnam dans ses eaux territoriales, telles que définies dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Et donc le gouvernement vietnamien a à plusieurs reprises demandé, exigé de la Chine qu'elle retire tous les navires de ses eaux territoriales.
Hein. Oui, mais tous ces navires restent toujours dans ce secteur. En fait, le but de Pékin semble que de perturber les activités pétrolières du Vietnam et dissuader les sociétés étrangères de travailler avec le Vietnam. Pour le moment, Hanoï reste impuissant face aux activités chinoises. Il peut faire rien d'autre que de dépêcher des navires pour suivre les mouvements des bateaux chinois.
Alors, cette tension doit renforcer davantage la méfiance des Vietnamiens vis-à-vis de la Chine, forcément.
Oui, y compris dans le domaine économique, parce que en ce moment, le Vietnam fait appel aux investisseurs étrangers pour réaliser le projet d'autoroute Nord-Sud. C'est un projet important, mais beaucoup de gens ont peur que ce projet tombe dans les mains des sociétés chinoises. Donc, parmi les personnalités qui s'opposent le plus à ce risque, c'est l'économiste Pham Chi Lan, on l'écoute.
Với tính chất của nó về an ninh quốc phòng cũng như là ý nghĩa về kinh tế của nó.
Que dit-elle? Que vu l'importance stratégique et économique de ce projet, surtout dans le contexte actuel, c'est extrêmement dangereux qu'on laisse les sociétés chinoises réaliser ces projets à l'intérieur du territoire du Vietnam. Un voleur est devant notre porte. On ne peut pas le laisser entrer dans notre maison, tout simplement, car cela conduirait à d'autres risques et d'autres pressions sur le Vietnam et sur la sécurité et sur la défense. Donc, face à ces protestations, le gouvernement a fait marche arrière en supprimant carrément la liste des sociétés, dont les sociétés chinoises, sélectionnées pour participer aux appels d'offres du Vietnam.
Bien évidemment, la rédaction vietnamienne de RFI suit tout cela de très près. C'est une femme. Quant au service en anglais, il s'est intéressé à ces diplomates et experts américains, spécialistes du Zimbabwe, qui protestent contre l'attribution d'un prix par l'université de Harvard à la première dame du Zimbabwe, Auxilia Mangangwa, qui a été récompensée pour ses contributions à la médecine, alors que les médecins au Zimbabwe sont actuellement en grève, on y reviendra dans un instant, pour protester contre le manque de moyens. Sarah Elsass, que disent ces spécialistes?
Ils disent que c'est vraiment pas le bon moment d'attribuer des titres au Zimbabwe, surtout dans le domaine de la santé. Une telle récompense soutient un régime qui devient, et ça c'est la citation de la lettre, de plus en plus corrompu et abusif. La lettre a été signée par 14 personnalités liées au Zimbabwe, incluant 4 anciens ambassadeurs américains au Zimbabwe. Alors donc, nous avons joint Jeffrey Smith, c'est un universitaire, c'est l'instigateur de la lettre. Il dit que l'attribution de l'honneur est la suite d'une campagne, en fait, de la part du Zimbabwe de dissimuler tous les problèmes dans le pays. On l'écoute.
Harvard honorary award to the First Lady as part of a broader PR and lobby offensive that the Zimbabwean regime has been
undertaking. Que dit précisément Jeffrey Smith?
Il dit en fait que cette récompense de Harvard fait partie d'une offensive de relations publiques et de lobbying de la part du gouvernement zimbabwéen depuis que Emmerson Mnangagwa a pris le pouvoir par un coup militaire en 2017. Il dit que le Zimbabwe a embauché 3 des plus grandes firmes des relations publiques à Washington ainsi qu'une firme à Londres. Il leur paye des grosses sommes d'argent lorsque les hôpitaux au Zimbabwe ne peuvent pas payer leurs médecins.
Alors justement, je le disais, depuis plusieurs semaines au Zimbabwe, donc, les médecins sont en grève, ils protestent contre le manque de moyens.
Oui, donc le Zimbabwe fait face à l'inflation énorme, tout le monde est touché. Les médecins réclament une augmentation de salaire, mais aussi il y a un manque de moyens, pas de médicaments, pas d'équipements. De plus, le gouvernement repousse la grève violemment. La semaine dernière, un médecin à la tête de la grève a été enlevé, torturé pendant 5 jours. Dans ce contexte, attribué à un honneur particulièrement dans le domaine de la santé est mal placé. Selon Jeffrey Smith, Harvard est en train de faire de la politique.
I think it's time for institutions like Harvard, as well as development partners and other donors, to stop hiding behind the
veil. Là encore, quel est son commentaire?
Il dit oui que Harvard, mais aussi d'autres institutions étrangères ils disent qu'ils prennent pas de la position politique, mais en honorant quelqu'un comme la première dame de cette façon, c'est ce qu'ils font. Ils entrent dans la politique. Et en effet, cette propagande est utilisée par la propagande d'État. L'honneur, par exemple, a été reporté dans le journal d'État Zimbabwe, The Herald.
Alors, au bout du compte, que se passe-t-il?
La lettre a demandé à Harvard de retirer le titre. Et finalement, aujourd'hui, on a appris, notre journaliste a reçu une ligne des relations publiques de Harvard disant « Nous, on n'a rien à voir avec ce titre. » Alors, c'est pas clair ce qui se passe. Est-ce que le centre médical qui lui a donné le prix, est-ce que ça existe ou n'existe pas? Est-ce que Harvard dit rien publiquement? Mais peut-être ça a eu un effet. On verra bien dans les jours qui suivent si ça va revenir. Mais peut-être la pression a eu un effet quelconque.
Ça devrait se décanter, bien évidemment. La rédaction en anglais de Radio France Internationale suit cette actualité. Merci à vous tous pour cet éclairage sur ce qui fait donc l'actualité du monde. C'était Accent du Monde.
RFI parle au monde en français, mais aussi en 14 autres langues. Écoutez RFI en brésilien.
Todos os dias, acompanhe nosso programa em português nos horários de 6h30 e meio-dia, horário de Brasília, para o Brasil.
Écoutez RFI en brésilien à Belém sur 93.7 FM et sur br.rfi.fr.